Juin 2022. Je t'en ai pas encore parlé, mais en ce moment, au Québec, on est en pleine réforme du droit de la famille.
Le droit de la famille, c'est le droit qui encadre les rapports juridiques au sein de la famille et entre la famille et les autres personnes. Il concerne notamment les règles qui régissent le mariage, l'adoption, les pensions alimentaires et l'autorité parentale.
En gros, ce droit-là a une influence énorme sur la manière dont on structure nos liens. Au Québec, ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas assisté à une réforme d'une telle ampleur. Je retrousse mes manches, toi aussi, attache ta tuque parce que j'ai l'impression que ce sera pas simple. Pour comprendre comment les lois influencent mon projet de famille et ceux des personnes que j'ai rencontrées, je dois me pencher sur le droit de la famille et sur sa réforme. Parentèle, en quête d'une famille qui nous ressemble. Épisode 5, l'institution et ses marges.
La dernière réforme du droit de la famille visait essentiellement à mettre à jour le droit de la famille au regard des nouvelles mœurs sociales.
Michaël Lessard, juriste et doctorant en droit, que tu as déjà entendu dans l'épisode précédent.
Il n'y avait pas de volonté de chambouler la structure des familles, mais de juste donner aux gens les outils juridiques que les gens pensaient déjà avoir. Mais il y a toutes sortes de situations qui ont été oubliées, notamment parce que c'est un projet qui a été somme toute rapide, mais c'est aussi un projet qui emmène très large. Là. C'est un grand défi de tout couvrir.
Mettons la pluriparentalité. Est-ce que ça pourrait être abordé prochainement dans une réforme du droit de la famille au Québec?
Non, il est trop tard.
OK.
Selon moi, on veut vraiment se limiter à deux parents par enfant. On ne veut pas aller plus loin.
Puis est-ce que c'est comme ça partout au Canada?
Non, dans les autres provinces canadiennes, il est vraiment plus facile d'avoir plus que deux parents par enfant. En Colombie-Britannique, puis en Ontario, par exemple, le droit explicitement va permettre 4-5 parents, même parfois. Puis sinon, dans toutes les autres provinces, les tribunaux ont le pouvoir de donner plus de liens de filiation.
Puis pourquoi est-ce qu'au Québec, on se limite à deux parents? Sur quoi est-ce qu'on s'appuie pour ça?
C'est une bonne question. Je pense que c'est essentiellement un jugement de valeur. J'ai peu vu dans les débats parlementaires de référence à des études scientifiques, par exemple. Puis on vise, encore une fois, à avoir un droit qui est centré autour du modèle du couple qui s'occupe de la famille. Le droit de la famille, surtout, évolue beaucoup selon les mœurs sociales, mais ça demanderait vraiment de rendre visible la chose. Il y a toute une mobilisation qui doit être faite. Je pense pas que les personnes en situation de pouvoir savent que ça existe, ou si elles savent que ça existe, elles pensent que c'est une ampleur qui est beaucoup moindre que ce que c'est en réalité. Présentement, c'est des personnes qui sont tout simplement exclues de beaucoup de régimes, de protections, puis d'avantages que le droit offre aux autres formes d'union.
Qui vivent des types de discrimination, en fait.
Exact. Donc, il y a vraiment une marginalisation de ces personnes-là. Et en tant que société, on n'a jamais fait ce choix très conscient-là. Et je pense que là, on doit le faire.
Mona Greenbaum est directrice de la Coalition des familles LGBT+. Elle prend souvent parole publiquement pour parler de la nécessité de reconnaître légalement la pluriparentalité.
La pluriparentalité est très importante pour nous comme sujet depuis des années, en fait, comme... Même quand il y a eu une réforme de droit familial en 2002 qui donnait reconnaissance aux familles homoparentales, à ce moment-là, on pensait, mais il y a des familles pluries, mais on a décidé de ne pas parler de ça, parce que juste de reconnaître deux parents de même genre était déjà quelque chose. Mais c'était toujours en tête et puis c'était toujours important pour nous parce que comme communauté, la communauté LGBT, on a probablement une surreprésentation des familles pluriparentales. Puis pour moi, la raison qu'on a un droit de famille, c'est pour protéger les familles. Donc, ce n'est pas une question de donner la possibilité à ces familles d'exister. Ils existent déjà. La question, c'est plutôt, est-ce qu'on veut protéger les enfants dans ces familles-là? Puis d'avoir une situation où il y a seulement quelques parents reconnus, puis pas tous les trois parents ou quatre, c'est endommageable pour les enfants. Ça met les enfants à risque parce qu'un enfant qui a, comme supposons, deux mères et un père risque de perdre un de ses parents s'il y a une chicane. Donc, les lois sont là pour protéger les enfants et les meilleurs intérêts. Donc, si on veut vraiment avoir un droit familial qui est comme à la fois progressiste, qui reflète les réalités familiales contemporaines et puis qui a l'enfant au centre des considérations, donc il faut absolument que ça soit inclus. Est-ce que ça va arriver à un moment? Moi, je pense que oui, ça existe déjà dans trois autres provinces canadiennes. Ça existe dans plusieurs États aux États-Unis. Donc, c'est pas comme si on invente la roue ici. Ça existe déjà et puis la terre continue à tourner.
Par rapport aux difficultés légales que je rencontre dans mon projet avec Kathleen, Mona semble surprise.
Pour le moment, deux personnes ont le droit de mettre leur nom sur l'acte de naissance d'un enfant. On ne peut pas avoir plus que deux, mais deux, c'est possible. Puis moi, je connais plein de personnes qui ont déjà fait et ça marche. Donc moi, je pense qu'il n'y aura pas de crainte au niveau légal. Ils ne vont pas tester si ces deux femmes ont couché ensemble parce que l'État ne va pas dans les chambres à coucher de leurs citoyens, comme disait le père Trudeau. Puis je connais des familles comme ça déjà. Et la filiation est reconnue. Ces personnes ne sont pas considérées comme couple. Donc, moi, je ne vois aucun empêchement.
OK, attends-le. Il y a deux semaines, tu es arrivée en braillant, en disant « C'est un drame, notre famille ne sera jamais reconnue légalement. » Puis là, tout d'un coup, il n'y a plus de problème.
Non. Ce que je comprends, c'est qu'il y a une différence entre la théorie puis la réalité.
Mm-hmm.
Attends. Article 538 du Code civil, c'est clairement inscrit. Ah, OK. Le projet parental avec assistance à la procréation existe dès lors qu'une personne seule ou des conjoints ont décidé, afin d'avoir un enfant, de recourir aux forces génétiques d'une personne qui n'est pas partie au projet parental. Ça dit personne seule ou conjoint. C'est ça qu'il faut retenir. Selon la loi, c'est seulement les personnes seules ou les conjoints qui peuvent faire un projet parental. Puis, pour être considéré comme conjoint, attends, je l'ai ici. Article 61.1 de la loi d'interprétation sont des conjoints de fait, deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui font vie commune et se présentent publiquement comme un couple. Si, en l'absence de critères légaux de reconnaissance de l'union de fait, une controverse survient relativement à l'existence de la communauté de vie, celle-ci est présumée dès lors que les personnes cohabitent depuis au moins un an ou dès qu'elles deviennent parents d'un même enfant.
Ah ah! Parents d'un même enfant? Fait qu'on devrait être correct si on a un enfant ensemble?
Non, c'est plus compliqué que ça, je pense. Toi, t'es en couple avec quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Si t'habites avec ton copain pendant qu'on va de l'avant avec le projet d'enfant, tu vas être sa conjointe à lui. Conjoint, conjointe, c'est définitivement un titre qui peut s'accorder seulement à une personne à la fois.
OK, là, mais attends, là, j'ai une idée. On s'entend que maintenant, socialement, on tolère la... Comment tu dis, là, quand on change de blonde, de chum, tout le temps, là?
La monogamie en série.
C'est ça? On tolère la monogamie en série. Fait qu'on pourrait très bien dire que j'étais en couple avec lui, qu'on a rompu, que j'étais en couple avec toi après, qu'on a eu un enfant, puis ensuite qu'on a rompu. Puis que je me suis remise en couple avec lui.
Oui, on peut faire ça. Mais tu réalises, faut mentir.
Oui. Ben tant pis pour eux. On a juste à mentir, on les invitera pas à souper à Noël.
Oui, mais ça règle rien, l'injustice systémique.
Je sais bien, là, mais je t'écœurerai. Moi, je veux juste un bébé avec toi. Il va être super bien entouré, cet enfant-là, sacrement. On va l'aimer? On a toutes les capacités pour être des bons parents ensemble? Voyons, maudite mort! C'est donc mes caves que l'État décide avec qui je devrais élever mes enfants! Qu'est-ce que ça change? Ça me donne juste le goût d'aller chier sur leur perron. Envoyez, donne-moi ce code civil-là que
non.
Je me torche avec.
Non, quelqu'un, franchement!
Envoyez! Je vais le faire quand tu vas dormir!
Bonjour.
Bonjour.
Allô?
Est-ce que tu m'entends?
Oui, je t'entends bien.
J'appelle Michaël Lessard à nouveau. Juste pour être totalement certaine de bien saisir les ondes de risque.
Je crois que la première piste d'explication pour bien comprendre pourquoi il y a une différence entre la loi comme on la comprend dans le Code civil, puis ce que la loi semble permettre dans la réalité, c'est qu'on est dans un domaine de droit où il y a un décalage entre le droit écrit et l'application de la loi. Donc, c'est pour ça qu'on voit ces situations-là survenir sans trop poser de problème. Puis moi, en ma position d'avocat, je serais assez malvenu de conseiller à quelqu'un d'aller à l'encontre de la loi. Mais visiblement, il y a des personnes qui le font sans trop déranger. Déjà, l'école puis l'hôpital est habitué à laisser une certaine place aux beaux-parents. Le beau-parent n'a pas de lien de filiation, donc théoriquement, presque tout le temps, il ne devrait pas pouvoir prendre des décisions importantes, mais on lui accorde un certain espace parce que socialement, on comprend qu'il agit comme parent. Donc, ça fait en sorte que tout le monde est assez conciliant et ça renforce le décalage entre le droit écrit et le droit appliqué. Je pense que vous exposez un problème qu'il y a dans le droit de la famille qui a une plus grande ampleur que ce que j'aurais pu imaginer, c'est-à-dire jusqu'à quel point le droit de la famille est décalé par rapport aux besoins de la population.
Alors, je retiens une chose de tout ça. Même si Kathleen et moi, on souhaite fonder une famille dans un modèle en marge de celui reconnu par nos lois, ça se peut que notre histoire passe inaperçue et que nos deux noms soient reconnus sur l'acte de naissance. Parce qu'au final, même si on a un modèle hors norme, on veut être seulement deux parents. Et ça, on y revient encore une fois, ça semble être une chose très, très importante dans notre société québécoise.
Pour nous, c'est très clair que la cellule familiale comporte deux parents seulement. C'est un choix qui est basé sur le fait qu'il n'y a pas de démonstration que c'est dans l'intérêt de l'enfant d'avoir plus de deux parents.
C'est un extrait de la conférence de presse du 21 octobre 2021 quand le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, a présenté le projet de loi 2. Le projet de loi 2, ça fait partie de la réforme du droit de la famille. C'est le projet de loi qui concerne spécifiquement la filiation. C'est dans ce projet de loi-là qu'on aurait pu adresser les enjeux de pluriparentalité. Mais tout ce que le ministre dit sur le sujet, c'est ça.
Pour nous, c'est très clair que la cellule familiale comporte deux parents seulement.
Quelques phrases à la fin d'une période de questions. En d'autres termes, le projet de loi déposé par la Coalition Avenir Québec refuse tout simplement de parler de pluriparentalité. Comme le dit Mona Greenbaum, de Coalition des familles LGBT+, que la loi le reconnaisse ou pas, les familles existent. Et ça vulnérabilise tout le monde, adultes comme enfants, que les liens existants soient pas reconnus. Un exemple? En 2018, au Québec, une famille pluriparentale s'est présentée devant les tribunaux. Je t'explique la situation brièvement. Deux mamans veulent un enfant. Elles font appel à la contribution génétique d'un ami qui décide finalement de s'impliquer à part entière dans le projet parental. Tout le monde est d'accord avec cette décision-là. Avant même la naissance de l'enfant, les trois parents signent un contrat témoignant de leur intention de faire famille ensemble. L'enfant naît. Le nom des deux mères est inscrit sur le certificat de naissance. Le père n'a pas de reconnaissance officielle, même s'il est pleinement impliqué dans la vie de l'enfant. Tu me suis jusqu'à présent? Si tu as une impression de déjà-vu, c'est que ça ressemble beaucoup au modèle familial des deux Karine et de leur amie. Mais c'est à partir d'ici que l'histoire diffère. 6 ans plus tard, le couple, initialement formé par les deux femmes, se sépare. Suite au divorce, le père biologique souhaite être reconnu comme parent légal. C'est le début d'un procès, une bataille pour l'autorité parentale qui oppose le père biologique à la mère non biologique. L'affaire s'est rendue en cour supérieure. Le juge n'a pas eu le choix de trancher. On le sait, la loi permet seulement la reconnaissance de deux parents. La mère non biologique a finalement été retirée du certificat de naissance à l'avantage du père biologique. Le juge, l'honorable Gary Morrison, a toutefois invité l'État à réfléchir de nouveau à la reconnaissance de la triparentalité ou de la pluriparentalité, et ce, pour le meilleur intérêt des enfants mineurs.
Extrait du jugement de Gary Morrison. L'impossibilité qu'un enfant ait plus de deux parents pose problème eu égard à la réalité sociale de 2018. le meilleur intérêt de l'enfant mineur requerrait que la loi permette la reconnaissance de sa réalité, soit que sur les plans émotionnels et socio-économiques, elle a effectivement toujours eu trois parents. Au lieu d'être en mesure de formaliser la situation par une filiation à trois parents pour le bien de l'enfant, les parents se retrouvent dans un combat juridique tentant d'en éliminer un parmi eux.
À l'époque, la déclaration avait provoqué une vague de soutien.
Archive d'une entrevue à Radio-Canada avec un avocat.
C'est le reflet de la société et le juge fait quand même, sort de son devoir de réserve, interpelle le gouvernement afin d'effectuer une refonte du droit de la famille. Donc, moi, ce que je dis, c'est que le juge Morrison s'est bien dirigé en droit, mais il a été pris en otage par une législation désuète et une non-volonté politique de modifier en profondeur notre droit de la famille.
Elle avait aussi soulevé un déferlement de critiques.
Extrait d'un mémoire rédigé en vue des consultations publiques. L'opinion formulée par le juge Morrison prend davantage les allures d'une opinion personnelle, aux fondements pour le moins laconiques, parmi lesquels on retrouve, au premier chef, la primauté de la volonté des adultes. En outre, le jugement du juge Morrison ne fait état d'aucune donnée empirique qui viendrait formellement attester d'une possibilité de conjugaison entre l'intérêt supérieur de l'enfant et un cadre juridique transcendant la biparentalité.
L'intérêt de l'enfant, c'est une notion qui est fondamentale en droit de la famille. L'intérêt de l'enfant, c'est aussi une notion qui a été mobilisée au début des années 2000 lors des débats autour de la reconnaissance des familles homoparental.
Extrait d'un mémoire rédigé en 2004 par un juriste et professeur de droit. Bien que le ministre de la Justice se soit réclamé de l'intérêt de l'enfant pour appuyer l'option choisie, aucune étude empirique réalisée auprès d'enfants filialement liés à deux mères ou deux pères n'a été produite au soutien de ces prétentions.
Les mêmes arguments reviennent, systématiquement, dès qu'on tente d'élargir notre conception collective de ce que peut être une famille. Depuis le début de cette quête, je constate que nos histoires, nos imaginaires, nos institutions, nos lois, l'ensemble de notre société, en fait, est bâti autour du couple monogame hétérosexuel. Tout ce qui en déroge, dérange. Mais en refusant de reconnaître légalement certains modèles familiaux, on crée des familles de seconde classe. Et ça, c'est dans l'intérêt de qui? Pour m'aider à mieux comprendre ces débats autour de l'intérêt de l'enfant, je rencontre Kevin Lavoie, professeur adjoint à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval.
Le fameux intérêt de l'enfant que je mets entre guillemets, c'est souvent un argument qui va être avancé pour maintenir le statu quo ou maintenir les modèles traditionnels. Dans les dernières décennies, la famille a beaucoup changé. Il y a des changements sociaux qui ont propulsé ces transformations familiales-là. Je pense entre autres l'accès à la contraception, l'entrée massive des femmes sur le marché du travail, la démocratisation de la procréation assistée, la hausse des divorces ou des séparations. Tout ça fait en sorte que la famille change et ça crée des réactions parfois négatives, de crainte, de peur, de qu'est-ce que ça va être. Et là, c'est là qu'on sort l'argument de l'intérêt de l'enfant pour dire on ne devrait pas changer les choses. Ce que moi, je déplore, c'est qu'on n'entend pas les enfants eux-mêmes. On parle en leur nom. On va très peu écouter la voix des enfants, des adolescents, adolescentes qui sont directement concernés. Qu'est-ce que les enfants ont à dire sur la question?
Moi, ma famille, je la trouve extraordinaire.
Pourquoi est extraordinaire, ta famille? Qu'est-ce qui la rend si spéciale pour toi?
Parce que je l'aime beaucoup.
C'est nous, les autres, qui créons la différence. Mais les enfants, eux, voient pas ça.
Puis en bout de ligne, les travaux montrent que les enfants, ils vont bien. Ils aiment leur famille. Ils se rendent compte qu'éventuellement, leur famille est différente des autres. Hein? Surtout lorsqu'ils vont avoir accès à l'école, à la garderie. Et c'est souvent la réaction des adultes. Qui ne savent pas trop comment s'y prendre, qui vont remettre en question. C'est ça qui peut teinter négativement l'expérience des enfants.
Kevin étudie les réalités familiales. Il s'intéresse particulièrement aux parcours familiaux qui dérogent des normes traditionnelles.
Il y a très peu d'endroits dans le monde où est-ce qu'ils reconnaissent légalement la pluriparentalité. D'un côté, c'est vrai qu'il y a peu d'études, mais en même temps, ce qu'on sait, puis ça, les travaux, les constats sont clairs, c'est lorsqu'il y a un déni de reconnaissance, ça teinte négativement le bien-être des familles, parce que ça crée du stress.
Selon ce que tu observes, toi, qu'est-ce qui fait qu'un enfant est bien dans un contexte familial?
Il y a deux choses. Ça va être la réponse du parent envers les besoins de l'enfant, être à l'écoute, puis pouvoir offrir, puis aménager la vie familiale pour répondre de façon le plus optimale possible aux besoins spécifiques de l'enfant. Et d'un autre côté, c'est aussi une responsabilité entre les adultes, les figures parentales qui gravitent autour de l'enfant, de communiquer, de pouvoir se parler, pouvoir réfléchir à qu'est-ce que moi je veux offrir à mon enfant, qu'est-ce que les autres veulent faire, est-ce qu'il y a des compromis à faire, comment on va les actualiser. Toujours en se rappelant qu'en bout de ligne, est-ce que je suis en train de penser à mes besoins comme parent ou aux besoins de mon enfant? En bout de ligne, est-ce que je suis en train d'imposer mes propres besoins au départ de mon enfant?
Puis qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent que, par exemple, vouloir fonder une famille pluriparentale, c'est une préoccupation d'adulte qu'on impose sur un enfant?
Bien ça me fait toujours un peu sourire quand les gens vont critiquer le, entre guillemets, le droit à l'enfant. Que c'est un désir égoïste, que les adultes pensent juste à eux. Finalement, bien, dans toutes les familles, c'est un désir égoïste. Hein? C'est juste qu'on ne le remet pas en question lorsque c'est dans une famille traditionnelle, quand ça a été un couple hétérosexuel, par exemple, qui ont conçu un enfant de façon dite naturelle. Ils veulent fonder une famille, ils veulent construire quelque chose, ils veulent léguer quelque chose à leur enfant, une génération future. C'est un désir de transmission qui, finalement, est partagé par plein de gens.
Je profite de son expertise sur les familles alternatives pour lui poser une question qui me brûle les lèvres et qui me permettra, j'espère, de mieux saisir ce qui relie toutes les réalités familiales que j'ai rencontrées dans les dernières semaines.
Qu'est-ce que tu remarques de ces modèles-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui diffère des modèles plus traditionnels dans la manière de vivre la vie?
Ça, c'est une super bonne question. Élever un enfant, c'est très standard de prendre soin, nourrir, loger, habiller. Il y a des défis qui sont associés à la parentalité. Il y a des choses qui reviennent, peu importe la configuration familiale. Et ce qui les distingue, les familles dites « à la marge », entre guillemets, c'est que dans plein de contextes comme ça, la procréation assistée, la coparentalité élective, les familles homoparentales, transparentales, bien, dans plein de situations, ce n'est pas une surprise. Ça a été un projet planifié, désiré, caressé depuis longtemps, souvent face à l'adversité. Adversité qui peut prendre différentes formes, hein, administratives ou légaux ou même sociales, hein, les préjugés, les personnes de l'entourage qui vont remettre en question le projet, qui vont trouver que ça n'a pas d'allure. Bien, tout ça, ça fait en sorte que les gens doivent se préparer, doivent trouver des outils, doivent réfléchir à pourquoi ils vont le faire. C'est énormément d'investissement, c'est beaucoup de stress, mais également c'est beaucoup de planification, de communication, de négociation, de réflexion très, très personnelle qu'on doit se mettre vulnérable. Il faut en parler à d'autres parce que d'autres personnes qui vont être impliquées dans le parcours. Puis ça, en fait, ça crée des espaces de développement de soi, puis également une sensibilité, des niveaux de compétences, de communication étonnantes qu'on remarque dans plein de configurations familiales comme ça.
Qu'est-ce que je peux apprendre des marges? Je prends rendez-vous avec une spécialiste de la question. On se rejoint sur Zoom, chacune de notre côté de l'Atlantique.
Je m'appelle Gabrielle Richard, je suis sociologue du genre et mon dernier livre porte sur les parentalités queer. J'ai été à la rencontre de plusieurs dizaines de parents qui ont réfléchi un peu différemment de la norme à leur désir de famille.
Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux parentalités queer?
Je suis moi-même un parent queer. Et dans mon processus de conception de ma propre famille, je me suis posé énormément de questions sur ce qui pouvait se faire, comment aller de l'avant. Et j'ai senti que j'étais beaucoup isolée. Et j'ai senti qu'on parlait très peu des manières de faire famille autrement, c'est-à-dire de comment on peut faire famille quand on n'est pas un couple hétéro, quand on n'est pas un couple, quand on est plus que deux personnes. Enfin, j'étais à la recherche de narrations alternatives et ayant eu du mal à les trouver, j'ai décidé d'aller les chercher moi-même.
Et qu'est-ce que tu retiens de cette enquête-là?
Quand on me demande d'expliquer en quoi les parentalités queer peuvent être différentes des parentalités un peu plus traditionnelles, c'est-à-dire des gens cisgenres hétérosexuels qui deviennent parents, l'image qui me vient souvent en tête, c'est l'image d'un puzzle ou d'un casse-tête. Et c'est cette idée que Généralement, quand on est une personne cis-hétéro, on se questionne très peu sur le casse-tête. On sait qu'on va s'asseoir, qu'on va faire un casse-tête et que, tranquillement, on va assembler les pièces et puis l'image va se dresser à nous, puis on aura terminé notre casse-tête. L'analogie n'est pas la même pour les personnes queer. C'est que les personnes queer, déjà, on remet en question est-ce que tu es capable de faire un casse-tête? Est-ce que tu es sûr que tu veux faire un casse-tête? Donc, on questionne leur désir et leur capacité de devenir parents. Donc, dès lors qu'on reconnaît que des personnes queer peuvent avoir envie d'agencer des pièces et de construire un puzzle, bien là, c'est pas la fin de l'histoire parce que la manière dont les personnes queer vont concevoir le puzzle, c'est pas, à mon sens, la même chose que les personnes cis-hétéro. Pour moi, une des choses qui reste à garder en tête et qui peut servir au-delà des communautés queer, c'est à quel point il est non seulement possible, mais même peut-être souhaitable dans certains cas, de ne pas chercher chez une même personne à la fois son coparent et son ou sa partenaire amoureuse et son ou sa partenaire sexuelle. Donc, on a souvent cette conception, ce qui est un peu issue de cette idée du prince charmant, hein, cette idée qu'on aurait une personne qui serait notre moitié et chez qui on trouverait nécessairement réponse et à tous ses besoins. Et évidemment, dès lors qu'on sort de l'hétérosexualité, c'est souvent des choses qu'on vient à questionner. On a vu de différentes façons des parents queer qui ont dissocié ces différentes sphères de leur vie. Donc, ils pouvaient coparenter avec quelqu'un, être en relation amoureuse avec une autre personne, concevoir même avec une autre personne également, ce qui ne fait pas de ces familles-là des familles moindres. Et j'ai envie de dire qu'à bien des égards, ça en fait des familles plus fortes parce que plus respectueuses des ressources et des désirs d'implication de tout le monde. Je pense que la parentalité, c'est une chasse gardée, hein, qu'on interroge peu et on l'interroge très peu parce qu'on a tendance à considérer que ça va de soi. Et je pense qu'on peut aussi se dire, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je suis prêt à donner dans ce projet d'enfant-là? Est-ce que moi, je suis pas prêt à donner ou ce que j'ai pas en matière de ressources ou de capacités? Qui peut m'aider dans ce projet d'enfant-là?
Qu'est-ce que tu dirais à deux personnes qui amorcent ce cheminement-là?
Je pense que je dirais à deux personnes qui amorcent, deux ou plus, hein, personnes qui amorcent leur cheminement, d'essayer de se détacher autant que possible de ce qu'on leur dit qui est réalisable ou qui n'est pas réalisable, ou qui est souhaitable ou qui est moins souhaitable, et de s'arrimer le mieux possible à ce que ces personnes-là ont à offrir à un projet d'enfant, que ce soit des ressources financières, que ce soit du temps, que ce soit un habitat quelconque, que ce soit des capacités, etc. L'objectif étant d'accompagner un enfant au mieux dans les différentes sphères de sa vie et au cours de son enfance, de son adolescence, etc.
En m'aventurant dans ces recherches sur le droit de la famille et sur les enjeux politiques qui impactent nos relations, j'avoue que ça provoque pas mal de questionnements sur ma place dans tout ça. Qui suis-je, moi qui raconte des histoires, pour essayer de faire la lumière sur des situations complexes, sur des affaires qui sont beaucoup plus grandes que moi? J'ai envie de parler à une personne qui navigue depuis des années sur cette frontière entre art et politique. Une personne qui, à sa manière, a remis en question bien des normes.
J'ai l'impression que les gens veulent vraiment reproduire ce qu'ils ont vécu dans leur enfance.
Catherine Dorion, artiste, ex-politicienne et autrice de l'essai « Lutte féconde, libérer le désir en amour et en politique ».
Puis comme ça fait des probablement millénaires maintenant qu'on vit dans, en tout cas en Occident, avec un héritage de famille, un papa, une maman, des enfants, qui sont ensemble pour toujours, il y a beaucoup de monde qui, sans savoir pourquoi, même sans se demander pourquoi, vont vraiment faire beaucoup de choix de vie importants dans le but de reproduire ça. C'est pas que c'est mal, mais des fois, des gens sont mal dans ça. Puis, on n'arrive pas à se dire « Hey, je suis obligée de faire ça, tu sais. » La chambre à coucher ou la maison, c'est le plus petit espace politique qui existe. Puis, si tu es capable, comme personne sociale, de dire « Mais attends, pourquoi ça fonctionne comme ça? » Puis, dans le fond, ça me tombe pas. On peut-tu comme faire autre chose? C'est sain, c'est bon d'oser ouvrir des brèches puis de dire « Checker, je vais vous montrer une autre version. » Tu sais, il y a celle-là, là. L'aimez-vous? Si tu l'aimes, tu peux la faire aussi, tu peux l'apprendre, tu peux, tu sais, ça se fait. Puis on peut chialer sur la fermeture d'esprit de ceux qui réagissent mal, mais on peut aussi se dire oh « Oui, mais je m'y attends parce que je suis une bizarre puis j'aime ça. T'sais, je veux justement pas rester là où le chemin est tellement tapé que je suis sur le pilote automatique tout le temps. » En ce moment, je vis avec... c'est mon amoureux, mon chum. On a... il y a 3 enfants qui vivent avec nous. Donc, il y a notre fille à nous deux. Puis, il y a mes 2 autres filles qui ont 2 autres pères différents. On a développé quelque chose qui fait que... Là, par hasard, ça donne que je fit dans le modèle plus traditionnel. Mais c'est parce que je l'aurais choisi, tu sais. Moi, je raconte des histoires de ma vie aux enfants. Fait que je dis, ah, je sais ce que tu vis. Moi, à un moment donné, telle chose... On est beaucoup formé par les contes. Hein, t'sais, les contes ont un gros impact sur ce que tu veux et ne veux pas faire, les buts que tu vas poursuivre, ne pas poursuivre. Il y a des archétypes, des personnages dans les contes. Tu dis, moi, c'est plus celui-là, je vais agir de telle façon sur le monde, tout ça. Fait que c'est comme ça que je suis avec mes filles. J'essaie de placer des espaces où la réflexion va pouvoir se faire quand ça va arriver dans leur vie. Ils vont probablement vivre des genres de chemins qu'ils prennent parce qu'il le faut, parce que c'est comme ça, alors que c'est pas celui qu'ils voudraient suivre. Mais au moins, quand dans leur tête, il va avoir « Ah, est-ce que je suis obligée de faire ça? Pourquoi c'est comme ça? » Bien, il va y avoir tout un appareil d'histoires, de contes qui vont résonner puis dire « Oui, oui, explore plus loin cette question-là. Oui, en fait, c'est vrai. Pourquoi? » Tu sais? Expérimenter d'autres choses, puis avoir peur du regard des autres, puis penser que ça va être compliqué, c'est normal, mais... c'est vraiment le fun. Ça vaut la peine de passer à travers le bout du doute. Ça vaut vraiment la peine. On devient tellement plus fort après. Puis des choses qui nous faisaient... Une fois qu'on a osé mettre en place des trucs nouveaux, il y a tout un océan de liberté qui se dévoile à nous parce que ce genre de choses-là, dans d'autres domaines, on peut le faire maintenant. T'sais, on l'a expérimenté, puis on connaît le chemin. C'est dur au début. Il faut convaincre des gens. Il y aura toujours du monde qui vont juger. T'sais, on n'a pas beaucoup de temps avant de mourir. Là, fait que ça vaut la peine de ne pas se faire chier, puis de vivre des aventures.
On est à un de ces gargantuesques brunchs que j'aime tant. Il y a Kathleen et plein d'autres gens. Des amis, des amours et leurs amis et leurs amours. Il y a mes parents et ma sœur, des liens de sang et des liens de cœur. C'est une belle tablée, ma famille. On parle de politique, de relations, de nouveaux mots, de jardin, de sauce à spag. On parle du ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, qui a présenté, en ce mois de février 2023, un nouveau projet de loi, le projet de loi 12, qui poursuit la réforme du droit de la famille. Et, à nouveau, le ministre a répété...
Écoutez, nous, c'est très clair qu'on exclut la pluriparentalité. Ce que je veux dire, c'est que c'est un choix de société. Au Québec, on choisit de faire en sorte que l'autorité parentale est divisée entre 2 parents seulement.
On parle de ce nombre grandissant de familles de plus de 2 parents qui sortent dans les médias pour manifester leur désaccord face à ce choix gouvernemental. On parle de ces personnes polyamoureuses qui ont déposé une action en justice pour être toutes 3 reconnues comme parents et qui envisagent de s'attaquer à la constitutionnalité du droit québécois sur ce point. On parle de ce qui stagne, de ce qui avance.
Je voulais savoir comment vous voyez ça aujourd'hui, le projet d'enfant à Kathleen et moi.
Ben, je vois ça comme 2 personnes qui vont être des parents très compétents. Ce qui est rassurant, c'est que c'est un projet qui a été très réfléchi.
T'sais, avant, pour moi, c'était comme évident qu'il fallait que ce soit pas nécessairement un homme et une femme, mais des gens qui s'aiment d'amour comme conventionnel, comme on le connaît. Mais c'est sûr que le fait que tu m'en as beaucoup parlé, Maude, c'est comme si tout d'un coup, je voyais le parentage de façon beaucoup plus large.
Puis sinon, ben c'est sûr que ça nous met dans une position où va falloir expliquer fréquemment... Et ça, ben, c'est correct. On va se transformer en humble pédagogue là, pour ce qu'on est capable d'expliquer.
Comment vous allez faire ça? Si quelqu'un vous pose la question, faites de la misère à comprendre la famille à Kathleen et moi. Qu'est-ce que vous allez dire?
Sors de ma vie.
Non! non, c'est que... Tu sais, c'est sûr que c'est... tu sais, ça sort de la norme, mais c'est pas parce que ça sort de la norme que c'est pas quelque chose de sain et de serein. Mais ça, il faut être conscient que la première fois que les gens l'entendent, c'est un éveil, un peu comme nous. La première fois que l'idée nous a été soumise, on n'y croyait pas vraiment, là. Mais là, aujourd'hui, je le vois plus du tout comme ça.
Quand le vertige me prend, quand je trouve que tout bouge trop lentement, je me raccroche à ça. Je le vois bien que, tranquillement, ensemble, collectivement et intimement, on déplie les possibles.
Comment tu définirais c'est quoi une famille maintenant aujourd'hui?
Ben, j'ai l'impression que c'est les personnes avec qui on choisit de passer nos vies. Puis on dirait que même en disant personne, j'aurais le goût d'élargir à être vivant, que ça peut être quelqu'un avec son chien.
Tu sais, même moi, je suis en train de me dire, j'aimerais peut-être ça, avoir une famille, mais partager cette charge-là puis cet amour-là à quatre. Est-ce que ça se pourra? Je suis loin de le savoir, mais je veux dire, je trouve ça juste beau de penser qu'il y a autre chose de possible.
Il faut que j'enlève toutes ces barrières-là que je m'étais construite, puis me dire que peut-être que ma famille, ce sera pas celle que j'imaginais quand j'avais 10 ans.
Dans ma vie, je trouve des gens qui ont des désirs puis des visions de la vie qui m'interpellent puis qui me donnent envie d'évoluer encore plus puis de grandir encore plus puis qui me donnent du courage. Puis la famille, je pense qu'on la découvre tout au long de notre vie.
Ma réponse à moi, elle a bougé depuis le début du balado et elle va sûrement continuer à évoluer dans les prochaines années. Mais aujourd'hui, ma famille, je la définirais comme ça. Un réseau de soutien et de solidarité qui m'aide à grandir. C'était le cinquième épisode de Parentèle, enquête d'une famille qui nous ressemble. Pour en savoir plus sur le projet, on t'invite à nous rejoindre sur la page venusavelo.com/parentèle. Tu y trouveras toutes les références citées dans cet épisode, ainsi qu'une foule de ressources pour aller plus loin. Ce balado est une production de Vénus à vélo, écrit et réalisé par Maud Boutin-Saint-Pierre, avec la collaboration de Kathleen Lorrain-McCarty. Prise de son et conception sonore par Remy Boutin-Saint-Pierre. Musique originale composée par Erika et Jérémy Hagenveilleux. Montage musical, Jérémy Hagenveilleux. Avec la voix de Léo Bain pour les citations. Conception et réalisation du visuel, Marie Loubois. Direction vocale, Rosalie Cournoyer. Post-production sonore, Guillaume Côté. Assistance à la réalisation, Philippe Rivard. Direction de production, Marie Tan et Auréliane Massé. Mentorat à l'écriture, Erika Soucy. Bande-annonce animée, Geneviève Tremblay. Merci à toutes les personnes qui ont témoigné à mon micro. Michael, Mona, Kevin, Gabriel, Catherine, Monique, Denis, André, Romy, Rosalie et Philippe. Ce balado n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec et de Première Ovation.